France Culture.
Dès lors que l'on regarde du côté des États-Unis, c'est peu dire que les choses vont vite, tant l'ensemble de la vie économique est suspendu aux annonces de l'administration américaine. L'idée d'une désescalade des tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis est désormais dans l'air. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, ces indices américains ont terminé en hausse hier sous l'effet de cette annonce. Mais avant cela, il faut rappeler qu'au début du mois, la capitalisation boursière des entreprises cotées aux États-Unis avait fondu de plus de 6 000 milliards de dollars, une situation qui avait provoqué une vague d'inquiétude chez les retraités américains.
Not a good day for your retirement account.
Ce n'est pas une bonne journée pour votre compte de retraite. Le plan du président Trump visant à taxer toutes les importations ébranle les marchés dans le monde entier. La cloche de clôture a sonné il y a tout juste une heure et c'était déjà trop tard. En effet, vous pouvez voir que le Dow Jones s'est ouvert dans le rouge au début de la journée et qu'il a clôturé en baisse de 4%, soit environ 1 700 points. Certaines des plus grandes entreprises du Minnesota ont même enregistré une baisse encore plus importante que celle du Dow Jones.
J'essaie de réduire mes dépenses, car je pense que nous pourrions entrer en récession.
Je pense à racheter ma voiture. En effet, je l'utilise actuellement en leasing, ce qui me coûte quelques centaines d'euros par mois.
Je sens que la bourse va descendre, mais ça va remonter.
À la fin, tout va remonter. Ça prendra un peu de temps, on va perdre un peu d'argent, mais ça va remonter.
Alors pourquoi, lorsque les places financières tremblent, les retraités américains également? Si en France, les retraites complémentaires sont gérées par répartition, dans d'autres pays, au premier rang desquels on retrouve les États-Unis, c'est la capitalisation qui prévaut. Or, qui dit capitalisation dit fonds de pension, qui gère ainsi les cotisations transformées en placements, pour le dire très grossièrement. Alors pourquoi ce choix d'avoir recours à des fonds de pension et se soumettre ainsi aux aléas de la finance? Ce marché mondial représenterait en 2023 54 000 milliards de dollars et représentent pour certains pays plus du double de leur PIB. Alors comment de telles sommes sont-elles gérées? Et surtout, comment a évolué la répartition du risque entre tous les acteurs concernés depuis les années 90, années de tournant majeur? Pour répondre à toutes ces questions et comprendre toutes les réalités que recouvre le mot de capitalisation et donc celui de fonds de pension, j'ai le plaisir de recevoir Najat El-Mekaoui, professeure associée et chercheuse au département d'économie de l'université Paris-Dauphine PSL, bonjour.
Bonjour.
Également avec nous en studio, Anne Lavigne, vous êtes professeure de sciences économiques à l'Université d'Orléans. Vous êtes membre du conseil d'administration du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Vous avez été responsable des études au conseil d'orientation des retraites, le COR, entre juillet 2016 et juillet 2022. Vous étiez en charge notamment du suivi des systèmes de retraite à l'étranger et des questions d'épargne retraite. Et vous êtes également l'autrice d'une économie des retraites parue aux éditions La Découverte, dont une version nouvelle, actualisée, devrait paraître en juin prochain. Alors Najat El-Mekaoui, une question vaste, mais pour nous aider à comprendre ce qu'il se passe actuellement et faire un peu le tri déjà, un premier aperçu aussi de ce qui va nous intéresser tout au long de cette émission. Mais pourquoi l'effondrement des marchés a-t-il suscité une telle inquiétude chez les retraités américains, dont on entendait certains témoignages dans le son qui vient d'être diffusé? Par quels mécanismes sont-ils touchés par les évolutions boursières?
Merci pour cette invitation. Alors peut-être rappeler comment fonctionnent les fonds de pension. Alors comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, donc en fait quand on parle de fonds de pension, il y a une multitude de fonds de pension. Et en fonction du type et du mode de fonctionnement des fonds de pension, les risques sont très différents. Les risques sont différents à la fois, bien sûr, pour l'institution qui les porte, mais plus on a affaire à un dispositif qui est diversifié et mieux seront gérés les niveaux de prestations. Alors, ce qui m'amène à essayer de définir d'entrée les différents modes de fonds de pension, les différents types ou dispositifs de fonds de pension. Donc, lorsque on parle de fonds de pension, il faut bien distinguer que nous avons des caisses de retraite qui financent les prestations de retraite. Donc, ce sont des caisses de retraite. Et si j'insiste sur cet aspect, c'est parce que très souvent, il y a aussi une très grande confusion entre un fonds de pension, un fonds mutuel, un fonds de placement, un hedge fund, qui est plutôt un fonds de spéculation, voire même un fonds souverain. Donc il y a quand même voilà,
tout
une très
un
grande,
ensemble d'institutions voilà, qu'il ne faut pas confondre.
Exactement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas liés entre eux. Et on va voir pourquoi. Donc le fonds de pension, c'est une caisse de retraite. C'est une caisse de retraite qui adopte une technique de financement, de placement assez spécifique, qui est la technique de la capitalisation. Et donc les cotisations qui seront perçues dans cette caisse de retraite proviennent à la fois des employés et des employeurs et sont ensuite placées sur les marchés financiers. Donc d'où cette inquiétude des retraités enfin, ou des futurs retraités dès que on a des situations de crise
oui.
ou des situations voilà comme on a pu l'observer ces derniers temps. Mais on a énormément d'épisodes qui sont extrêmement heurtés pour les retraités ou pour les futurs retraités. On a eu énormément de crises financières, de crises économiques, des périodes de très forte inflation. Et donc, ce qu'on observe depuis quelques semaines, bien que ces derniers jours,
les
bourses commencent à maintenir une situation un peu plus positive que ce qu'elle n'a été. Je parle de la bourse américaine, des différents marchés aux États-Unis ont été assez secoués ces derniers jours. Donc effectivement, donc dès que il y a une baisse significative qui est observée sur les principaux indices boursiers, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays d'ailleurs.
Dès lors qu'il s'agit de fonds de pension, c'est le cas.
Exactement. Mmh. Donc là, il y a vraiment une inquiétude assez importante parce que ces actifs sont principalement placés sur un certain nombre de compartiments de marché des capitaux. Et nous avons différents pays pour lesquels le système de fonds de pension est très développé, comme aux États-Unis d'Amérique, en Amérique du Nord en général, au Canada c'est aussi le cas. Et donc quand ces actifs sont placés en grande partie sur le marché des actions et que les entreprises commencent à subir des pertes, eh bien,
forcément,
les pertes peuvent se retrouver également sur les niveaux de prestations. Mais il y a un certain nombre quand même de fonds qui seront beaucoup moins touchés. Les fonds qui sont à prestations définies, ce sont des fonds qui sont, comme le nom l'indique, garantissent un niveau de prestations. Et là où les risques sont les plus importants en termes de pertes de revenus, ce sont pour les fonds de pension qui sont à cotisation définie, où là, pour ce type de fonds, il n'y a pas de garantie de niveau de prestation. Donc, on peut comprendre l'inquiétude des futurs retraités lorsque une partie de leur financement de la retraite est adossée à des actions, à des actifs qui sont cotés sur des marchés boursiers et que ces actifs perdent en valeur. On peut comprendre leur crainte d'avoir une baisse qui se répercute également sur leur niveau de prestation sociale.
Alors, on va revenir en détail sur beaucoup de choses que vous venez d'évoquer, Najat El-Mekaoui, mais surtout sur cette idée aussi d'une distinction très forte à faire, et notamment lorsqu'il s'agit de cotisations définies, c'est un aspect essentiel pour comprendre aussi le niveau de risque auquel sont exposés ces individus, ces retraités et surtout futurs retraités, en fait, parce que c'est là que se situe le point principal. Anne Lavigne, pour rester tout de même sur ce cas spécifiquement américain, parce que c'est vrai que ça était très présent dans l'actualité et c'est vrai que le lien entre de grandes évolutions macroéconomiques, on va dire, et financières et le lien avec tout simplement le niveau de vie des retraités n'est pas forcément simple à saisir, d'autant plus qu'on pourrait se dire qu'aux États-Unis, il existe une Old Age and Survivors Insurance qui couvre les salariés du secteur privé, de l'État fédéral et les non-salariés. Il s'agit là d'un régime obligatoire, sachant que les salariés des administrations et collectivités locales ont un régime facultatif. Dans quelle mesure on peut se dire que les retraités américains bénéficient tout de même d'un filet de sécurité? Est-ce qu'il y a une partie de leur épargne qui est, comme on vient de le dire avec Najat El-Mekaoui, soumise effectivement aux fluctuations des marchés? Est-ce qu'il y a une autre partie qui, elle, fait partie d'un plan hors sec ou en tout cas n'est pas concernée par cela?
Bien sûr, l'OASDI, comme vous l'avez indiqué, c'est la sécurité sociale américaine. C'est un filet de sécurité dans la mesure où c'est gérée par la puissance publique, c'est obligatoire, avec des taux de cotisation qui sont bien inférieurs à ceux qu'on connaît en France chez nous. Mais malgré tout, ça fait 6,2% pour les salariés, 6,2% pour les employeurs. Donc ça fait un niveau de cotisation qui est de 12% à comparer à nos 28% pour les salariés du privé chez nous. Donc ça crée un filet de sécurité, notamment pour les gens qui ont les plus petits revenus. Premier point. Et deuxièmement, pour les gens qui n'ont pas de couverture à travers un fonds de pension. Parce que la couverture à travers un fonds de pension, ça suppose que, en général, on est salarié dans une grande entreprise, une grande ou une moyenne entreprise, mais tous les salariés américains n'appartiennent pas, ne sont pas des salariés de moyennes ou grandes entreprises. Il y a des gens qui travaillent dans un supermarché. Ils n'ont pas nécessairement accès à un fonds de pension proposée par leur employeur, hein, on estime à peu près aujourd'hui à moins d'un salarié sur deux qui a accès à un fonds de pension. Ça veut dire que bah, y a presque un Américain sur deux qui ne peut compter, quand il arrive à un âge élevé, que sur la sécurité sociale, Social Security, qui est notre régime général, hein, pour faire court, hein, et qui peut compter sur une épargne personnelle ou qui peut compter sur aussi des revenus du travail. Parce que aux États-Unis, quand on a atteint 65, 70 ans, parfois on n'a pas de revenus suffisants de la sécurité sociale pour continuer à survivre.
Alors justement, Anne Lavigne, à ce sujet-là, on sait qu'en France, ce sont les derniers chiffres de l'adresse, hein, qui le disent, mais que le niveau de vie médian des retraités est légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population active. Et je renvoie aux auditeurs, aux auditrices qui voudraient en savoir plus à l'émission de Quentin Lafay, qui se demandait hier soir si oui ou non les retraités français sont davantage privilégiés que les actifs. Mais au-delà de ça, le taux de pauvreté des plus de 76 ans en France est de 3,4%. Qu'en est-il aux États-Unis? Est-ce qu'il y a davantage de petits retraités ou de retraités pauvres aux États-Unis qu'en France?
Oui, bien sûr. Il y a le taux de pauvreté aux États-Unis est très largement supérieur pour les plus de 65 ans à ce qu'il est en France. Il y a surtout une très grande différence entre les retraités les 20% des retraités qui gagnent le moins et puis ceux qui sont à l'autre bout de la distribution et qui sont très riches. Les retraités des deux premiers déciles, c'est-à-dire les 20% qui gagnent le moins, tirent essentiellement leurs revenus à la retraite de la sécurité sociale. À travers quelque chose dont on n'a pas idée en France, parce que en France, quand on part au taux plein, on part avec 50% de la moyenne des 25 meilleures années de salaire, pourvu qu'on ait une carrière complète. Donc, notre taux plein, c'est 50%. Aux États-Unis, il y a un mécanisme qui est très intéressant dans lequel le taux de remplacement est dégressif. C'est-à-dire qu'on décompose le revenu d'un individu en tranches. Sur la première tranche, vous avez un taux de remplacement de 85%. Sur la deuxième, 62%. Et sur la dernière, 15%. Ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est extrêmement redistributif dans ce qu'on appelle le premier pilier ou le premier étage de la retraite.
Et dernière question aussi sur ce cas américain. On parle là, et on l'a dit aussi avec Najat El-Mekaoui, on parle là plutôt de futurs retraités, finalement, dès lors qu'il est question des fluctuations financières. Les retraités actuels peuvent être aussi effrayés par une autre menace qui est celle de l'inflation. On l'a beaucoup dit, les frais de douane que Donald Trump entend imposer à tous les biens qui vont être importés sur le sol américain entraînent de fait cette menace-là de l'inflation. Est-ce que les retraités risquent d'être particulièrement touchés par cette question-là ou est-ce que les retraites liquidées sont indexées aux États-Unis? Alors, à l'inflation
au régime général, Social Security, c'est indexé sur le coût de la vie. Pour les fonds de pension, après, les fonds de pension, c'est des régimes de retraite qui sont conventionnels. C'est pas une loi qui va dire voilà ce qui se passe dans tous les fonds de pension. Chaque fonds de pension crée ses propres règles et d'une certaine manière, la plupart des fonds de pension font des indexations sur l'inflation, mais on peut très bien envisager d'autres types d'indexation, voire de gel de l'indexation dans des périodes critiques. Ça, c'est le fonds qui le décide.
Najat El-Mekaoui, vous avez souhaité réagir à ces questions sur, on va dire aussi, peut-être la vulnérabilité de ces retraités américains face à ces fluctuations plutôt macroéconomiques et financières.
Oui, mais j'aimerais revenir sur un point qui me semble assez important. Comme l'a indiqué Anne, ces grands fonds, hein, tels qu'ils sont mis en place aux États-Unis et et un peu partout dans le monde, ne s'adresse pas de la même manière à tous les individus. Il faut être en emploi, il faut être très souvent, c'est ce qu'on observe en tout cas pour les États-Unis, en emploi plutôt dans des grandes entreprises. Très souvent, ce sont des employés qui ont des carrières qui sont qui font réellement une carrière assez importante au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont en emploi. Et donc, c'est vrai que ce qu'on observe, c'est que tout le monde ne sera pas logé, enfin, tous les travailleurs ne seront pas logés à la même enseigne, en tout cas aux États-Unis, puisqu'il faut plutôt avoir un travail à temps plein. Ceux qui auront un travail à mi-temps seront beaucoup moins couverts par ce type de régime d'entreprise. Mais j'aimerais quand même souligner que c'est le cas pour les États-Unis. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, et je pense qu'on va y revenir aussi par la suite, pour les Pays-Bas, par exemple, qui, aux Pays-Bas, les systèmes de fonds de pension sont extrêmement présents.
Et développés.
Extrêmement développés, puisque cela constitue quasiment l'essentiel de la prestation de retraite. Mais aux Pays-Bas, il y a une obligation d'adhésion. Et donc, il y a quand même un certain nombre de pays pour lesquels ce caractère d'adhésion, lorsqu'il y a cette obligation que ces dispositifs, lorsqu'ils sont mis en place dans une entreprise, ils doivent s'adresser à tous les travailleurs. Il ne doit pas y avoir de distinction. Parce que c'est ce qu'on reproche très souvent aux fonds de pension dans certains pays, c'est bien sûr leur caractère inégal. Le fait de permettre plutôt à des personnes qui sont qui ne sont pas à mi-temps, le fait que ça va être davantage ce qu'on observe, toutes des femmes qui pourraient être davantage exclues de ce type de dispositif. Donc, ce n'est pas ce qu'on observe lorsque on est dans des économies où, eh bien, la réglementation impose qu'il n'y ait pas de choix de l'entreprise de choisir l'employé qui puisse adhérer à ce système de fonds. L'autre point que j'aimerais apporter aussi, c'est que effectivement, aux États-Unis, on a à la fois des fonds publics qui sont les plus grands fonds de pension, qui figurent même parmi les plus grands fonds de pension mondiaux, comme pour le fonds néerlandais, comme pour APB, qui est le plus grand fonds européen néerlandais. Et aux États-Unis, les fonds publics se distinguent des fonds privés. Les fonds publics, ce sont généralement les fonds des fonctionnaires, des enseignants, de la police, donc qui se distinguent énormément des fonds privés. Et il y a une réglementation, il y a une loi spécifique pour les fonds de pension et aussi des organismes d'assurance qui prennent le relais lorsqu'il y a une entreprise qui se trouve en difficulté, lorsqu'il y a des fonds qui enregistre aussi des baisses au niveau de leurs actifs, eh bien, cet organisme d'assurance peut également intervenir.
Et c'est donc qu'il faut rappeler que fonds comme entreprises peuvent faire faillite. Ce sont des entités temporelles, quelque part.
Alors, les fonds peuvent être gérés en interne et très souvent sont plutôt gérés en externe. D'accord ? Donc, il y a, quand en introduction, je vous ai indiqué qu'il y avait vraiment toute une multitude de fonds et que très souvent il y avait cette confusion. Mais en vous indiquant quand même qu'il y avait une très forte liaison entre une partie des actifs, par exemple des fonds de pension, seront gérés par des assureurs, seront gérés par des fonds de placement, donc peut-être par des mutual funds. Tout à l'heure, vous avez parlé de BlackRock, oui, géré aussi par BlackRock. Donc, généralement, ce qu'on observe, c'est que l'évolution de ces différentes institutions, elles vont quasiment de pair. Un pays qui met en place des mécanismes importants en termes de retraite par capitalisation, eh bien, on verra se développer également les fonds mutuels, l'assurance, voilà.
Donc, parce que c'est encouragé et parce que tout parce il y a une forte incitation à ce niveau-là. Anne Lavigne, vous souhaitez
réagir ? Oui, juste sur la couverture par un mécanisme d'assurance quand un fonds de pension fait faillite, c'est vrai pour les fonds de pension à prestations définies. Dans un fonds de pension à prestations définies, Il y a une garantie. Le risque, il est porté par l'employeur. L'employeur promet une pension à son salarié une fois que ce salarié partira à la retraite. En général, c'est sous la forme de tant de pourcents par année de présence dans l'entreprise en proportion du salaire. Et donc, l'employeur a l'obligation de provisionner l'engagement qu'il a fait. Et toute l'histoire des fonds à prestations définies, ça a été cette idée que, eh bien, les employeurs ont essayé un peu de rogner sur le provisionnement. Et comment on rogne sur le provisionnement, c'est de se dire, bon, ben voilà, moi, employeur, je vais placer les fonds en bourse, ça va me rapporter du 7%, 8% par an. Et donc, je vais provisionner à hauteur de cette anticipation. Et évidemment, si les placements ne procurent pas la rentabilité espérée, bah, ça veut dire qu'on n'a pas assez provisionné. Et donc, eh bien, quand les salariés partent à la retraite, on n'a plus les fonds nécessaires pour respecter la promesse qu'on a faite. D'où ces faillites de fonds de pension à prestations définies, qui sont sauvées par un organisme qui prend en charge le risque de faillite, et donc qui se subroge au fonds de pension pour verser les prestations. Et ça fonctionne à peu près bien, sauf que l'organisme qui assure lui-même les fonds de pension en situation difficile est lui-même en situation difficile quand il y a beaucoup de faillites de fonds de pension.
Anne Lavigne, avant d'en arriver à cette situation-là, qui est plutôt au final, on va dire, je voudrais juste qu'on revienne sur un point très important et qu'on a commencé à aborder, qui n'est pas forcément évident dès lors qu'on parle de fonds de pension. C'est vraiment qui décide finalement d'y avoir recours. On a parlé des employeurs. Est-ce que ce sont seulement les employeurs qui peuvent décider de placer une partie de l'épargne, et donc des retraites futures de leurs employés? Est-ce que cette décision-là est unilatérale? Comment se prend la décision finalement d'avoir recours à ces fonds de pension?
Alors, ça dépend des pays. Najat a parlé des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il n'y a pas d'obligation légale. La loi ne dit pas il faut que les salariés soient couverts par des fonds de pension. C'est des conventions de branche ou des conventions d'entreprise. Donc, dans les accords de branche, chaque branche décide de, eh bien voilà, si vous êtes salarié dans telle branche, vous serez couvert par un fonds de pension. De sorte qu'il y a à peu près 90% des salariés néerlandais qui sont couverts par les fonds de pension. Aux États-Unis, la situation est très différente. On fait ce qu'on veut. On est dans...
C'est la discrétion de chacun.
Voilà, c'est du contrat. Ça fait partie, historiquement, ça fait partie d'un accessoire du contrat de travail. C'est-à-dire que, en gros, si on se replace à la fin du 19e siècle, la difficulté des employeurs, c'était d'arriver à fidéliser leur main-d'œuvre. C'est-à-dire que les salariés s'embauchaient pour la journée, et puis quand ils n'avaient pas envie de revenir le lendemain, ils ne revenaient pas. Et une manière de fidéliser cette main-d'œuvre, ça a été de leur dire, déjà, on va vous procurer un salaire plutôt confortable, mais en plus, on va vous assurer pour, quand vous serez vieux, on va pouvoir continuer à vous verser une prestation. Et c'est l'employeur qui décidait d'abonder lui-même un fonds de pension, donc il le crée. Au départ, c'était dans sa propre comptabilité, et puis progressivement, il y a eu la création de ce qu'on appelle des fiducies, en anglais c'est trust. Donc on crée des formes juridiques où l'employeur finalement sépare sa propre comptabilité de la comptabilité du fonds. Et donc l'employeur abonde dans ce fonds de pension des cotisations pour plus tard servir des prestations aux salariés quand ils seront à la retraite. Éventuellement, le salarié aussi est amené à cotiser. Tout ça, c'est le fonds de pension... Au départ, ce qu'on appelle l'entreprise initiatrice ou sponsor qui décide de créer ça, soit c'est une entreprise toute seule, soit c'est un groupement d'entreprises, ça peut se faire à toutes les échelles. Il rédige lui-même le plan de pension, c'est-à-dire le document juridique qui va fixer les droits et les obligations de chacun, à la fois en termes de cotisation, en termes de calcul de prestation. Est-ce que la prestation, elle est réversible sur le conjoint survivant? Tout ça est défini à l'intérieur du plan, mais c'est vraiment conventionnel. Chaque plan fait ce qu'il veut. Sauf que, il y a une chose qui n'est pas conventionnelle et qui est légale, c'est le régime fiscal de ces cotisations et de ces prestations. C'est-à-dire que, quand vous cotisez à un fonds de pension, vous pouvez déduire de votre revenu imposable le montant que vous avez cotisé. Et pareil pour l'employeur, quand il abonde le fonds de pension, il peut déduire de l'impôt sur les sociétés les sommes qu'il a abondées. Et ça, c'est un élément extrêmement important. C'est pour ça que ces fonds de pension, ils s'appellent 401K, parce que c'est l'article du code des impôts qui régit le fonctionnement des fonds de pension.
Et cette question de la fiscalité est aussi très importante lorsqu'on va essayer de comprendre comment, quelle marge de manœuvre ou quel levier peuvent actionner les gouvernements pour encourager ou non ce recours, notamment à la capitalisation. Najat El-Mekaoui, on a commencé à parler de l'histoire finalement de ces fonds de pension, de la façon dont ils sont apparus et dont ils ont été utiles aussi au moment où ils sont apparus. Et c'est vrai que cette histoire, elle est intéressante, elle nous raconte finalement quel est le but même de ces fonds de pension.
Alors, l'histoire, comme vous l'indiquez, elle est vraiment importante à rappeler pour, ne serait-ce que pour comprendre l'évolution qu'on observe dans de nombreux pays, et particulièrement dans les pays dans lesquels les fonds de pension se sont ont atteint le niveau d'accumulation qu'on observe aujourd'hui. Encore une fois. On parle beaucoup des États-Unis, mais en Europe, un peu partout en Europe, on a des fonds de pension, également en Asie, en Amérique latine. Donc on a quand même pas mal d'économies dans lesquelles ces structures se sont bien développées. Alors, sur le plan historique, comme Anne l'a indiqué, c'est d'abord pour les entreprises un moyen de mettre en place un mécanisme permettant d'accompagner les travailleurs lorsqu'ils arrêtent leur emploi, c'est-à-dire que lorsqu'ils ne sont plus en mesure, n'ont plus la capacité physique de continuer en emploi. Donc, ce que nous, aujourd'hui, on appelle la période de la retraite, mais quand on monte 19e, début du 20e, avant la mise en place des systèmes de sécurité sociale, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tels qu'on les connaît tous, eh bien, il y avait très peu de protection, très peu de mécanismes de couverture retraite. Et donc, fin 19e, début 20e, donc on est dans des. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, donc qui sont. Canada, qui sont les premiers pays à avoir mis en place ces types d'assurances. C'était vraiment les premières assurances sociales. Elles ont été mises en place dans plutôt les grandes entreprises, les entreprises ferroviaires, dans les chemins de fer. Donc vraiment des entreprises qui embauchent énormément de travailleurs. Et donc, c'était un moyen de pouvoir, comme l'a dit Anne, de fidéliser les travailleurs et de leur permettre aussi, lorsqu'ils n'étaient plus en mesure de travailler, lorsqu'ils atteignaient un certain âge, eh bien, c'était aussi pouvoir les accompagner pendant leur période de retraite. Mais à l'époque, encore une fois, ce n'était pas vraiment la retraite. Et donc, on évalue à peu près, c'est aux alentours des 1850, où on a les premiers fonds de pension qui apparaissent au Royaume-Uni, 1870 pour les États-Unis, à peu près pareil pour le Canada. Et donc, ce sont des moyens de fidéliser, des moyens de gérer aussi une main-d'œuvre importante. On est quand même sur des périodes durant ces siècles qui sont quand même les siècles où l'industrie se développe. Donc, on a quand même des grandes entreprises d'acier, etc. Et donc, on garde les cadres, on garde les travailleurs et on leur offre de pouvoir les prendre en charge quand ils arriveront à la retraite. Mais on parle de retraite, mais durant ces périodes, et on le voit encore aujourd'hui sur certains types de fonds, c'est pas seulement apporter un revenu pour la période de retraite, mais c'était aussi pouvoir apporter aussi un financement aussi pour la santé.
Donc les deux étaient pris en charge. Ce qui me permet de rebondir, Anne Lavigne, avec cette période du milieu du 19e siècle, et faire cette distinction sur laquelle on n'a peut-être pas suffisamment insisté, mais cette différence qu'il faut faire aussi de façon très claire entre capitalisation et répartition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cité le cas des Pays-Bas, des États-Unis. On n'a pas encore parlé d'un cas qui nous intéresse quand même pas mal aussi, c'est celui de la France, qui semble faire une relative résistance à la capitalisation. Or, et c'est ce que vous dites dans votre ouvrage aussi, c'est que le 18 juin 1850, il y a une loi qui permet la création de la caisse des retraites pour la vieillesse, qui est destinée aux salariés, qui est alimentée par des contributions volontaires, individuelles ou collectives. Et vous le dites aussi, les fonds collectés sont capitalisés au sein de la caisse des dépôts et consignations et placés en rente de l'État. Donc dès les origines aussi, on a ce système de capitalisation, y compris chez nous en France.
Oui, oui, on a, ça fait fort longtemps qu'on a un système par capitalisation. Après, il y a eu aussi des dispositifs d'épargne retraite dans les entreprises, y compris entreprises ferroviaires. Donc, les caisses de retraite se sont développées, la SNCF, etc. Il y a eu un épisode quand même dans notre histoire, hein, en 1810, avec la création de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, où on a instauré un régime de retraite par capitalisation. Et
1910,
en fait,
oui. Oui, c'est ça, c'est en 1910.
1910, oui, c'est ça. Oui, oui. J'ai dit.
Oui. Un siècle plus tôt, mais qu'est-ce que ça tienne.
1910. Oui, donc en 1910, loi sur les retraites ouvrières et paysannes, par capitalisation, et en fait... Ça s'est très mal passé, c'est-à-dire qu'on a eu cette période d'inflation pendant la guerre, et je pense que dans l'imaginaire, alors les générations, la plupart sont décédées maintenant, mais je pense qu'il reste un petit peu de ça dans l'imaginaire des gens, que la capitalisation a ruiné les épargnants entre les deux guerres, que la répartition instaurée en 1945 a permis de fournir immédiatement à des gens qui avaient subi une guerre, voire deux guerres, de pouvoir avoir un revenu à l'âge de la retraite, à 65 ans. Et donc ça, c'est mettre en place un système de retraite par répartition, c'est immédiat. Et du coup, ça permet de... fournir, enfin de sortir de la pauvreté d'un certain nombre de gens qui avaient été ruinés. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'en France, on est toujours un peu attaché à la répartition, peut-être avec cette idée que nos grands-parents, arrière-grands-parents ont perdu, été ruinés par la capitalisation dans l'entre-deux-guerres.
Et il y a un autre phénomène que vous citez aussi, alors bien avant cela, mais que j'ai trouvé intéressant, et pour nous aider aussi à comprendre en quoi consiste spécifiquement cette capitalisation, vous le dites, pour la caisse des retraites pour la vieillesse, alors qu'elle était destinée aux ouvriers, ce sont les spéculateurs et les classes moyennes avec une espérance de vie plus élevée qui s'en saisissent. Alors comment comprendre ce phénomène, et est-ce que là aussi c'est pas un signe que finalement c'est une technique, c'est un système qui est facilement détournable, on va dire, de son ambition première?
C'est pas nécessairement détournable. C'est que si vous le prenez comme une assurance, il y a un phénomène en assurance qu'on connaît bien, c'est que les gens qui savent qu'ils sont plutôt plus exposés à un risque que les autres vont avoir plus tendance à s'assurer. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'antisélection. Donc quand on sait qu'on peut, parce qu'on a des parents qui ont vécu très vieux, des grands-parents qui ont vécu très vieux, on se dit il y a des chances que j'ai une espérance de vie très élevée et donc je vais plutôt souscrire à un produit qui me procurera une prestation pour couvrir mon risque de longévité. Si je suis quelqu'un qui fume, qui boit et qui sait qu'il y a une espérance de vie relativement courte, je vais pas me diriger vers ce type de produit. Donc nécessairement, les gens qui ont un peu plus d'appétence à des produits qui permettent de couvrir le risque de longévité, eh ben ils vont plus peser sur le marché. Évidemment, ça coûtera d'autant plus cher qu'ils auront une espérance de vie longue, ce qui amènera à renchérir le prix de la rente. Et puis, à partir d'un certain moment, les gens qui, eux, savent qu'ils vivront pas longtemps, ils vont se dire « je vais pas payer tout cet argent » pour avoir très peu de certitude d'avoir une prestation à la retraite.
Alors on voit à l'instant comment les origines finalement de ces fonds de pension expliquent encore aujourd'hui leur rôle et leur importance. Alors comment ces fonds sont-ils devenus les acteurs financiers énormes qui pèsent un poids tout de même considérable que l'on connaît aujourd'hui? Et puis comment s'organise aujourd'hui encore la répartition du risque et comment les pays incitent ou non à y avoir recours à ce système des fonds de pension, mais donc de la capitalisation? On en parle juste après. Pension Funds, un titre du groupe Really Good Times sorti l'année dernière. This is my pension fund. Yeah, I'm a real grown. Children, keep your fun rolling in the mud. I suckle on your keys, a pick me up, then we compare our arts degrees and mold in the dream. Don't be so bitter, there's a war ready to pay you at your worth. Beast of the fields, soft in the earth. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture, entendez-vous l'écho, ouvre son dictionnaire de l'écho à la lettre C comme capitalisation, un mot qui amène à se pencher sur le rôle des fonds de pension et nous sommes toujours en compagnie de Najat El-Mekaoui, professeure associée et chercheuse au département d'économie de l'université Paris-Dauphine PSL et Dan Lavigne, professeur de sciences économiques à l'université d'Orléans et membre du conseil d'administration du régime de retraite additionnelle de la fonction publique et ancienne responsable des études au conseil d'orientation des retraites Le Corps, et cette émission a été programmée et préparée par Anouk Milio. Elle est réalisée par Cassandre Puel et mise en onde aujourd'hui par François Saint-Jour. Alors Najat El-Mekaoui, nous nous étions quittés sur cette histoire finalement très longue, bien plus longue peut-être qu'on pourrait ne le penser, de ces fonds de pension. Il y a tout de même un tournant, celui des années 90, et quelque part l'explication de ce tournant et de ce recours aussi sans cesse croissant aux fonds de pension est expliquée par Larry Fink, président directeur général de BlackRock, dont on évoquait aussi le rôle précédemment. C'était le 26 mars dernier.
Depuis l'année dernière, j'entends de plus en plus de débats autour de la crise des retraites dans de nombreux pays du monde, aussi bien dans les pays avec une classe moyenne en développement que dans les pays développés. Le problème aigu aujourd'hui aux États-Unis est qu'il y a encore 57 millions d'Américains qui n'ont aucune économie et aucun plan de pension. La sécurité sociale est une invention extraordinaire pour la retraite. Mais si vous n'avez que ça quand vous prenez votre retraite, vous allez vivre pauvre, sous le seuil de pauvreté, parce que ce n'est qu'un supplément, mais ce n'est pas censé être la seule chose qui finance votre retraite. L'entièreté de notre système de retraite a été construit sur des statistiques datées d'il y a 50 ans, quand la plupart des Américains prenaient leur retraite entre 60 et 62 ans, mais ils mouraient à 67 ans. Aujourd'hui, statistiquement, dans un couple de personnes de 60 ans en bonne santé, l'une d'entre elles va vivre au-delà de 90 ans.
Najat El-Mekaoui, est-ce que l'idée d'avoir recours à ces fonds de pension et donc à un système par capitalisation est une façon, comme on l'entendait à l'instant, de contourner le problème démographique ? Est-ce que c'est ce qui explique le recours croissant aussi à la capitalisation depuis les années 90 ?
Alors, ce qu'on a pu observer durant cette période, c'est la période à laquelle on a à la fois un développement assez important durant les années 90, des fonds plutôt à cotisation définie. Donc déjà, on a ce basculement qui va être vraiment de plus en plus significatif, des fonds à prestation définie vers des fonds à cotisation définie. Lorsque les salariés adhèrent à ce type de dispositif à cotisation définie, le risque, c'est eux qui supportent le risque. Ce ne sont plus les entreprises.
Alors pourquoi il y a cette bascule, Najat El-Mekaoui ?
Alors il y a cette bascule parce qu'on est dans une situation, dans un environnement où on a à la fois ce risque démographique, le vieillissement démographique. On est également situations où on a un certain nombre aussi de crises économiques. On a un certain nombre aussi de baisse qu'on observe sur un certain nombre de marchés. Donc les entreprises commencent à être, elles sont assez touchées par ces différentes situations. Et donc c'est une charge qu'elles ne veulent plus, qu'elles ne peuvent plus supporter. Et donc elles la reportent sur leurs travailleurs en modifiant le type de plan qui est passé de la prestation définie vers de la cotisation définie. C'est là où on a ces... parce que là, on parle de plan collectif. Et donc, c'est la période aussi où se développent de plus en plus les plans individuels. Et ces plans individualisés, travailleur par travailleur, c'est à eux de supporter encore plus le que ce soit le risque financier ou risque démographique plus l'entreprise.
Anne Lavigne, ce passage, ce tournant dont on parlait à l'instant, il est bien vécu ? Dans quelle mesure il est imposé ? Dans quelle mesure il passe parce qu'il n'y a pas tellement d'autres choix ? Comment est vécu finalement ce tournant et notamment pour les travailleurs, les travailleuses ?
Il est mal vécu par les travailleurs parce qu'effectivement c'est eux qui prennent la charge du risque financier. Ils n'ont pas trop le choix. Après, il y a des produits individuels. Après, on peut préparer sa retraite en acquérant sa résidence principale. Il y a d'autres mécanismes de couverture du risque de longévité. Mais malgré tout, c'est effectivement eux qui doivent gérer leur propre retraite. Alors après, on peut rester dans le cadre de la cotisation définie avec des plans qui sont strictement gérés par les individus eux-mêmes, ou bien on peut quand même avoir une mutualisation, même si on a de la cotisation définie. Donc on garde le risque financier, mais ce risque financier, il peut être mutualisé sur une communauté, une collectivité de travailleurs. C'est-à-dire qu'on a son propre compte avec le rendement qui est personnel, mais l'enveloppe des cotisations qui est gérée de manière collective. Et on a un rendement individuel à partir de cette gestion collective. Ça, c'est une forme de capitalisation collective à cotisation définie, où le salarié conserve le risque financier, mais il y a quand même une petite mutualisation au sens où le salarié n'est pas tout seul face à des produits de placement qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas choisir, etc.
Najat El-Mekaoui, on voit là qu'il est question d'éducation financière aussi à partir du moment où on passe, où il y a une espèce de tournant entre collectif et individuel. Alors non pas qu'on passe totalement de l'un à totalement l'autre, mais qu'il y a cette espèce de mix aussi. Est-ce que les salariés, les travailleurs qui décident justement d'avoir recours à ces fonds de pension mais de façon individuelle sont suffisamment armés, entre guillemets, pour savoir qu'est-ce qui va être fait de leur épargne?
Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais simplement rajouter vraiment peut-être un élément portant sur ce développement des fonds individuels. Il est important de bien prendre en compte que ces fonds individuels ont un mode de fonctionnement très différent des fonds collectifs ou des fonds de retraite ou des fonds d'entreprise. Ces fonds individuels ont un risque, encore une fois, beaucoup plus important pour les travailleurs. Et on entend souvent parler de ce fameux 401K. Donc le 401K, Anne en avait parlé un petit peu au début de l'émission, donc du nom en fait du code fiscal, ce sont des plans individuels, complètement individualisés. Alors ces plans-là, ensuite, bien sûr, les individus, les travailleurs ne sont pas seuls face à leur plan. L'entreprise va leur conseiller peut-être de souscrire une assurance, peut-être de recourir à tel type de fonds de placement. Donc, il y aura quand même un certain nombre de conseils qui sera donné aux travailleurs pour pouvoir ne pas se retrouver seul face à ce plan individuel. Ces plans individuels, la structure qui va prendre en charge ce plan individuel va donner la possibilité aux travailleurs de faire ses choix de placement. Donc très concrètement, vous avez un plan individuel, je suis le fonds de placement ou la société d'investissement qui va me charger de placer vos cotisations. Eh bien, je vais vous dire, écoutez, on peut, selon votre profil de risque, si vous avez plutôt de l'aversion à l'égard du risque, ou si vous en avez peu, ou si vous en avez moyennement, eh bien, on va vous proposer un certain nombre de plans, un certain nombre d'actifs, un certain nombre de fonds, etc. En fonction de comment vous sentez par rapport à prendre tel ou tel type de risque et sur telle ou telle période. D'accord ? Donc, tous ces éléments-là seront pris en compte par l'institution qui prendra en gestion vos actifs. Mais encore faut-il que le travailleur sache ce qui est placé sur un actif risqué ou un actif non risqué ou un actif moyennement risqué, et donc placer ses avoirs sur un marché d'actions, peut-être international, peut-être domestique, ou placer en titres obligataires qui peuvent être moins risqués si c'est des entreprises, si c'est des obligations publiques, ou peut-être un peu plus risqués si c'est des obligations d'entreprise. Et donc les travailleurs n'ont pas tous ce type de connaissances, et pas que les travailleurs. Je pense que de manière globale, si on n'a pas peut-être fait d'études en finance, ou si on s'intéresse pas plus spécifiquement à la finance, on n'a pas ces éléments-là. Et donc ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que un grand nombre d'entreprises accompagnent aujourd'hui les travailleurs pour avoir une plus grande culture ou ce qu'on appelle l'éducation financière. Et donc, eh bien, il y a des travailleurs qui sont accompagnés pour mieux identifier ce qu'est un risque sur tel type de marché, ce qu'est un taux d'intérêt, ce que ça signifie, s'il y a une baisse de taux, ce que l'impact que ça peut avoir sur leurs actifs, etc. Donc aujourd'hui, il y a un accompagnement.
Anne Lavigne, sur cette question.
Oui, il y a un accompagnement probablement, mais il y a quand même beaucoup de biais dans la décision d'investir pour un investisseur individuel. Il y a beaucoup de travaux en économie comportementale qui montrent que les individus ont des biais terribles sur la diversification. Et par exemple, le premier biais qui est assez dévastateur, c'est de se dire que investir dans l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est une bonne idée parce que justement, on la connaît bien.
Parce qu'on a accès à l'information.
Mais malgré tout, si l'entreprise fait faillite, on perd deux fois. On perd un salaire et on perd une promesse de retraite. Donc ça, c'est le premier biais. Le deuxième biais, c'est le biais domestique. C'est quand on est américain, on investit plus dans des entreprises américaines. Quand on est français, on a un biais à investir plus facilement dans une entreprise française. Après, il y a plein d'autres biais qui montrent que les gens, en fait, on leur dit il faut diversifier, mais quand on leur propose des stratégies de diversification, ils se trompent parce qu'ils pensent que il suffit quand on vous propose N produits financiers de mettre un sur N sur chaque produit sans même savoir ce qu'il y a derrière chacun des produits. Donc accompagner les individus, c'est pas suffisant. Je pense que la gestion financière, c'est quelque chose qui doit être laissé à des professionnels. Je pense que je suis à peu près éduquée financièrement. Je m'aventurerai jamais à composer moi-même mon portefeuille en vue de la retraite.
Anne Lavigne, on parle là bien au niveau individuel, de ces biais comportementaux au niveau individuel. Est-ce que si on passe désormais à l'échelle collective, c'est-à-dire la façon dont gère cet argent, dont gère cette épargne les fonds de pension, est-ce qu'il existe, c'est une question tout à fait large, mais est-ce qu'il existe une façon de gérer justement l'argent typique des fonds de pension ? Ou est-ce que là encore, comme on le voit depuis le début de l'émission, il faut bien distinguer fonds de pension et fonds de pension ? Mais est-ce qu'il y a une stratégie globale des fonds de pension, peut-être moins risquée vis-à-vis de l'épargne qui leur est confiée.
Alors, première chose, déjà, les individus ont des biais, mais les gestionnaires de fonds
aussi,
en ont aussi. Bon, un peu moins, mais ça existe aussi. Après, sur les modes de gestion, l'allocation d'actifs, elle est très différente selon les pays, elle est très différente selon la taille des fonds. Par exemple, les fonds nordiques sont plutôt plus investis en actions que les fonds américains, canadiens. On s'imagine que les fonds de pension aux États-Unis, c'est que de l'action, mais c'est pas vrai du tout. Il y a des produits de taux, il y a des obligations souveraines. Il y a aussi, et ce qui rend la comparaison très très difficile, malgré toute la technicité des gens qui travaillent à l'OCDE, c'est très difficile parce que quand vous avez des fonds de fonds, il faut aller traquer à l'intérieur de chaque fonds la part d'action dans un fonds d'action. Donc c'est très très compliqué, mais globalement, les fonds américains en moyenne, ils ne détiennent que 40% d'actions, alors qu'on pourrait se dire c'est le triomphe de l'actionnariat et il y aurait 60-80%, mais c'est pas tant que ça, parce que quand vous êtes un fonds de pension, c'est un point qu'on n'a pas encore évoqué, mais comment est-ce qu'on sort du fonds de pension? Nous, les Français, on a l'habitude, parce que notre retraite elle est par répartition, quand on arrive à la retraite, on a une pension qui tombe tous les mois. Donc on a une rente viagère, quelque chose qu'on va percevoir jusqu'au restant de ses jours. Un fonds de pension américain, c'est pas ça du tout. Un fonds de pension américain, il vous permet de sortir en capital, en rente, un peu en capital, un peu en rente, en retrait programmé, c'est-à-dire vous prenez 20% du capital tout de suite, vous laissez 80% qui va continuer de travailler pendant 10-15 ans, ensuite vous finalement demandez une rente, sachant que plus vous allez tarder, plus la rente sera chère. Tout ça modèle la structure d'allocation d'actifs au départ. C'est-à-dire que si aussi vous êtes un fonds qui est très peu mature, qui est tout jeune, avec des salariés qui sont tout jeunes, vous pouvez vous permettre de placer beaucoup en actions et relativement peu en obligations. Mais si vous avez fait des promesses de pension sous la forme de pension viagère, quand vous êtes un fonds très mature, il faut quand même que vous ayez des obligations pour avoir cette certitude de pouvoir payer des prestations au flux de nouveaux retraités.
Et puis tout dépend aussi. Et puis tout dépend aussi de la logique dans laquelle se trouvent les individus aussi, s'ils sont dans une logique justement de pouvoir vivre au moment de la retraite ou de transmettre aussi une partie du patrimoine à la génération suivante, ce qui est encore une autre question. Mais je crois que Najat El Mekaoui, vous souhaitiez réagir.
Oui, merci. Alors, il faut quand même bien intégrer le fait que ce soit les fonds collectifs, fonds de pension, ou les fonds de pension individuels, il y a des règles de prudence. Et les règles de prudence, on les trouve dans tous les pays. Donc, soit aux États-Unis, et il y a à la fois une loi fédérale, qui régit le fonctionnement des fonds. Mais il y a également, dans le cas des fonds publics, des réglementations qui peuvent être propres à leur État.
Je vous propose, pour parler justement des garde-fous finalement qui existent, d'écouter un son d'archives. C'est un reportage mené par France Inter en décembre 1981 où il est question justement des règles qu'on s'impose ou pas. Et en l'occurrence, c'est le risque qui a été pris et qui est parfois majeur par les fonds de pension au tout début des années 90. Donc le scandale Maxwell, du nom de Robert Maxwell, mania de la presse britannique, éclate.
L'empire Maxwell chancelle de plus en plus depuis un mois, depuis la mort du magnat de la presse. Les banques ne cessent de découvrir l'ampleur de l'endettement du groupe. Hier soir, ce sont les deux fils, Kevin et Ian Maxwell, qui ont donné leur démission sous la pression de l'establishment financier britannique. Le trou est d'ores et déjà estimé à 24 milliards de francs. Et vendredi, après-demain, la justice anglaise nommera vraisemblablement un administrateur judiciaire qui pourrait bien, Michel Garibald, déclarer tout simplement la faillite.
Oui, Robert Maxwell était contre l'héritage. Il avait dit qu'il ne laisserait rien à ses fils et en fait, il n'a pas tenu parole puisqu'il leur a laissé un héritage, mais un héritage de dette. Et alors, actuellement, les banques se concertent. Elles se sont déjà réunies deux fois depuis vendredi dernier. Elles se sont réunies lundi et mardi. Et il est probable qu'elles vont encore se réunir d'ici la fin de la semaine pour savoir si vraiment elles vont pouvoir récupérer quelque chose.
Anne Lavigne, très rapidement avant de passer la parole à Najat El Mekaoui, mais que s'est-il passé très concrètement avec ce scandale Maxwell et quelles ont été les conséquences au Royaume-Uni? De quoi, quelles décisions sont prises, notamment en termes de garde-fous vis-à-vis des fonds de pension à ce moment-là?
Et il me semble, c'est un peu sorti de ma mémoire, il me semble que c'était du fait de la confusion des actifs du fonds et des actifs de l'entreprise elle-même.
Exactement.
En gros, on mélangeait un peu la comptabilité du fonds et la comptabilité de l'entreprise. Et quand il s'agit de renflouer l'entreprise, Maxwell a tapé dans le fonds et du coup, ça a laissé les épargnants et les salariés sans ressources.
Najat El Mekaoui, de fait, quand un scandale de telle ampleur éclate, qui met notamment de très nombreux salariés à la rue, puisqu'ils sont privés d'emploi, comment on prend en compte ce genre de risque et comment on tente de le réguler?
Alors, dans le cas de Maxwell, je crois que c'était dans les années 90.
Tout début 91.
Début 91. En fait, on a d'autres cas qui se sont malheureusement produits de ce même type de situation, que ce soit au Royaume-Uni ou même un peu partout dans le monde.
Enron, par exemple.
Voilà, oui, mais au-delà de Maxwell et d'Enron, ce sont des cas de fraude. Donc là, on n'est pas dans une situation où il y a eu un investissement malheureux sur un marché ou une situation économique qui éroder les actifs du fonds. Là, on est dans un cas de fraude. C'est un cas de détournement. Ce qui s'est passé de mémoire, et je pense que c'était un des exemples que je donnais dans le petit ouvrage que j'avais publié sur les fonds de pension, c'est un cas de détournement. C'est un détournement de fonds. Il y a eu... l'entreprise était pas dans une bonne situation. Et là... Eh bien, le dirigeant est allé puiser dans les actifs du fonds de pension.
La question de savoir qui est chargé de surveiller cela. Là, vous parlez de cas de fraude, mais il y a d'autres cas beaucoup plus
bien
répandus.
Bien sûr, bien sûr. Alors, dans le cas des fonds, effectivement, donc lorsque le dirigeant a la possibilité d'aller piocher les actifs des fonds, voilà, c'est du détournement et ça, c'est puni par la loi. Alors, ce que ça a mis en avant, c'était que la réglementation durant cette période-là était extrêmement faible, voire peut-être même inexistante. Et donc, il y a eu un renforcement de la réglementation au Royaume-Uni, mais pas que, mais également, on a un renforcement de réglementation qui s'est produit à plusieurs reprises aussi au niveau européen, avec différentes directives européennes portant spécifiquement sur les actions, sur les actifs des fonds, sur la gouvernance, sur la gestion des fonds. Donc on a une plus forte gouvernance aujourd'hui des fonds, et avec une distinction des ressources qui sont détenues par les fonds, qui doivent être distinguées des ressources de l'entreprise qui les met en place. Donc aujourd'hui, on a une séparation qui est quand même assez stricte. On a des lois qui protègent. On a des lois aussi qui permettent de d'encadrer les financements, d'encadrer les investissements, d'encadrer la gestion de ces différents fonds. Et ces lois, on les observe un peu partout dans le monde aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans les années 90.
Anne Lavigne, ces lois, cette régulation est-elle suffisante à vos yeux? Je rappelle notamment qu'en octobre 2024, l'année dernière, donc BlackRock a fait l'objet d'une plainte de l'ONG Client Earth, qui accuse ce premier gestionnaire d'actifs mondial, alors on l'a dit, qui n'est pas uniquement un fonds de pension, mais qui gère quand même quelque part des pensions de retraite. Et donc cette ONG a accusé BlackRock de présenter comme vert des fonds d'investissement qui comportent pourtant de nombreux actifs fossiles. Là encore, est-ce qu'on peut se dire que la régulation, elle est satisfaisante aujourd'hui?
Évidemment, s'il y a des cas de fraude, et par exemple une entreprise, un fonds qui prétendrait investir dans des actifs verts et qui ne le fait pas, il faut contraindre. Mais des fraudeurs, il y en aura toujours. Je pense que là, maintenant, la régulation, elle est quand même relativement solide pour les fonds. Bah, pour les fonds à prestations définies, c'est clair. Pour les fonds à cotisations définies, je pense que en France, on a la chance d'avoir une réglementation prudentielle qui est plutôt très solide, et globalement la réglementation européenne est très solide. Donc moi j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Après, sur traquer dans un fonds de fonds le petit bout d'investissement fossile, c'est quand même toujours compliqué.
Et par ailleurs, c'est intéressant cette question-là aussi, Anne Lavigne, parce qu'il y a un point sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment insisté, mais c'est que ces fonds de pension ont un rôle à jouer aussi au sein des entreprises, à partir du moment où ils gèrent un portefeuille d'actionnaires, enfin d'actions, et donc ont une place, ont une voix au chapitre, notamment lors des assemblées générales de certaines entreprises. Est-ce que cela, ça peut représenter un risque, potentiellement un risque plus politique aussi?
Alors, effectivement, il y a une époque, jusqu'au milieu des années 2000, les fonds de pension étaient très actifs dans les assemblées générales d'actionnaires, et ce qu'ils voulaient, c'était rechercher la performance. Donc, ils présentaient des résolutions dans ces assemblées générales en disant, bah voilà, le dirigeant d'entreprise a fait des mauvais choix stratégiques et donc la performance de l'action est très réduite. Donc, il faut faire autre chose. L'activisme maintenant des fonds de pension est plus orienté vers de l'investissement vert. C'est-à-dire, on essaie de faire en sorte, non pas de maximiser la performance, mais d'avoir de l'investissement responsable.
Merci beaucoup Anne Lavigne et Najat El-Mekaoui de nous avoir aidé à comprendre ce qu'étaient les fonds de pension et de fait la capitalisation. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.